Histoire 2, patrimoine de nos communes.
Bonjour, bonjour à tous, c'est émission Histoire 2, une émission sur le patrimoine dans notre belle vallée du Loir. Aujourd'hui, je suis à Poncé-sur-le-Loir. Tout le monde connaît Poncé-sur-le-Loir, ses châteaux, son patrimoine, ses souffleurs de verre. Mais est-ce que vous connaissez tous cette superbe église, l'église Saint-Julien, qui a été récemment rénovée à Poncé-sur-le-Loir? Je suis avec Galienne Cohue, qui est maire de Loire-en-Vallée, dont Poncé-sur-le-Loir fait partie, c'est une commune nouvelle, vice-présidente aussi du pays Vallée du Loir, et notamment en charge du patrimoine, culture, tourisme, et en présence de Mathilde Estadieux, qui travaille au pays Vallée du Loir et qui se charge notamment du patrimoine et du label Pays d'art et d'histoire. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Bonjour Galienne.
Bonjour.
Alors Galienne, nous sommes dans cette superbe église. Est-ce que vous connaissez, j'imagine que oui, les origines de cette église? Elle est ancienne, on la voit, elle est typique, notamment une toiture qu'on a souvent en Sarthe, dite en coque de bateau, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit.
Elle est extraordinaire parce qu'en fait, elle n'a pas subi beaucoup de transformations. Voilà, il y a eu l'abside là, qui a été rajoutée, la petite sacristie sur le côté, mais tout le reste, c'est finalement les fondations de départ. On est au XIIe siècle. Il y a eu des petits ajustements, mais globalement, l'entrée, elle était là. Il y a l'abside du fond qui a été rajoutée, plus la sacristie sur le côté.
Et donc, contrairement à Sainte-Cécile à Flé, où j'étais le mois dernier, qui a subi énormément de transformations, ici, on est resté dans la configuration initiale, oui. Pas de changement. La Révolution, pas de changement non plus. Tout est resté dans son jus.
C'est resté dans son jus. Alors, la Révolution, on a quand même badigeonné les peintures murales, hein, qui ont été masquées, cachées, en tous les cas enlevées à la vue, et qui ont été redécouvertes après.
Effectivement, on y reviendra. Alors donc, l'église s'appelle l'église Saint-Julien. Pourquoi Saint-Julien?
Du nom de l'évêque du Mans, qui lui serait passé dans la région et aurait fait jaillir une source de mémoire, si je ne dis pas de bêtises.
Mathilde.
Il aurait demandé aussi à une habitante du coin, Eva, qui était une riche propriétaire, de devenir chrétienne et tout ça. Elle aurait refusé, elle aurait subi des tortures
divine,
on va dire. Elle se serait convertie, elle aurait fondé la paroisse ici. Enfin, bon, ça, c'est vraiment la légende. Hein. Mais c'est une des plus vieilles paroisses de Sarthe, en tout cas. Poncé, c'est avéré, parce que dès le 9e siècle, on trouve un texte qui parle de la paroisse de Poncé-sur-Loire, alors que souvent, on a des paroisses avérées vers le 10e, 11e siècle. On la classe dans les plus anciennes paroisses attestées de la Sarthe.
On est au bord du Loir, mais on est sur un promontoire à penser. On a une idée là de cette décision à l'origine, pourquoi s'implanter sur ce promontoire?
Non, pas trop. J'ai pas eu d'infos là-dessus. Alors, on pense que à l'origine, alors est-ce que de conditions géographiques, est-ce que l'envie de surplomber, enfin, bon, le château est pas loin. Hein.
L'origine du village de Poncé était plutôt, à cette époque, autour de l'église, où on était plutôt en contrebas. Vous avez des vieux plans, une histoire du village?
Le village était plus rassemblé. Là où il est plus étendu maintenant, il longe la voie ferrée. Enfin, ce qui est devenu la voie verte, mais il longeait la voie ferrée, c'est là où il y a eu tout ce développement, plus un développement lié aux moulins de paillard, qui ont structuré quelque part l'habitat. C'était plus ramassé. Et c'était, autour de l'église quand même.
Parce qu'on voit, il y a un joli habitat autour de l'église. Il y a des petites rues pavées, on sent quelque chose d'un peu historique.
Voilà, complètement. Tout ce qui est en bas s'est développé après, hein, notamment avec la voie ferrée, notamment avec l'industrie aussi. Mais non, c'était vraiment plus ramassé autour.
Vous avez connaissance de miracles, de choses particulières, d'événements exceptionnels qui se sont passés dans cette église?
Non, là on n'a pas grand-chose. Mais on m'avait parlé d'une source qui avait jailli, enfin voilà. Alors on est toujours un peu étonné parce que...
C'est pas une source de janière.
Non, malheureusement. Mais on est un peu étonné parce qu'on est en hauteur et on n'a pas trop de notions sur l'emplacement de la source. Enfin voilà. Et puis la légende se perpétue avec du flou autour et chacun brode, mais voilà.
Et Mathilde, vous qui êtes en charge du pays d'art et d'histoire, avoir cette superbe église sur notre territoire, j'imagine que c'est un joyau que vous valorisez, vous aussi?
Alors bah oui, forcément, j'ai tendance à dire, c'est normal, et je le pense sincèrement en m'occupant du label Pays d'Art Histoire, que tout est patrimoine et tout a du sens, donc tout est intéressant en fait sur notre territoire, c'est un ensemble. Mais effectivement, quand on a une église comme ça, qui est aussi remarquable, parce qu'elle l'est de par son architecture effectivement romane, qui est restée assez identique à l'origine, et toutes ces peintures qui ont été redécouvertes au 19e, comme on redécouvre souvent beaucoup de choses au 19e, mais remis en valeur dès le 19e, avec un cœur repeint au 19e, des peintures beaucoup plus anciennes et extrêmement bien conservées par rapport à d'autres édifices, et ben ça a fait sa réputation. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même connue depuis longtemps pour ses peintures murales, puisqu'elles ont été découvertes relativement tôt. Elle fait partie du patrimoine remarquable de Poncé, puisque je dois dire qu'il y a un patrimoine assez remarquable sur l'ensemble de la commune. Et l'église en fait largement partie.
Donc il y a eu des rénovations importantes et récentes qui ont été faites, on y reviendra, mais ce que vous me dites c'est que dès le 19e on a redécouvert des fresques, c'est pas lié aux rénovations récentes, ça avait été identifié auparavant.
Oui, c'est un curé au 19e, le curé Toublé, si je ne me trompe pas, hein, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui, en faisant justement des rénovations, parce que bon, c'est vrai qu'on oublie, hein, mais les églises ont toujours évolué, ont été restaurées, transformées, et c'est assez rare justement de trouver une église qui n'a pas été fortement transformée au fil des siècles, c'est le cas ici. Mais en tout cas, ce curé, il fait des travaux, il veut améliorer l'église, et il voit, il commence à voir les fresques derrière... C'est enduit à la chaux blanc et il va voir un peu plus loin. Et en fait, il se prend de passion pour ça. Le 19e, c'est le siècle où on réhabilite un peu tout ce qui a été fait dans le passé. Ce qu'on avait caché, tout ce qui était médiéval, redevient à la mode. Donc on est très content de les retrouver, en fait, les fresques. Et il va faire peindre le cœur qui était détérioré à partir de ce qu'il voit. Il refait faire les peintures du cœur. Donc on a un cœur très décoré. Les gens voient pas forcément la différence, mais... Là, c'est 19e, et puis le reste, bah, au fur et à mesure, il va découvrir les peintures avec, je dirais, un avantage et un inconvénient, c'est qu'après, une fois qu'elles sont découvertes, elles se détériorent très vite si elles sont pas traitées, conservées, ce qui va être fait plus tard et récemment.
Donc une grande partie déjà avait été découverte à cette époque, il y avait eu les moyens, la capacité de faire ces travaux au 19e.
Oui, je crois que dès la fin du 19e, à peu près toutes les peintures étaient découvertes. Et puis là, avec les derniers travaux, je regarde Madame Cohu qui va être plus au courant que moi parce qu'elle a suivi ça de près, mais il y a des petites choses qui ont été redécouvertes, mais c'est à la marge, je dirais, parce que
l'essentiel était déjà.
Ouais.
Donc évidemment, pour une commune, l'entretien de ce patrimoine représente un coût important. Donc pour la commune de Loire-en-Vallée, il y avait évidemment des budgets pour entretenir tout ça, mais il y a eu une excellente nouvelle qui a permis de déclencher des travaux, c'est que la commune a bénéficié d'un legs.
Ouais, exactement. On a découvert ça. Alors, l'histoire est assez rigolote parce que c'est une dame qui n'est jamais venue ici, qui a fait des recherches sur sa généalogie, qui a découvert qu'elle avait des ancêtres qui étaient maîtres du roi, je crois, dans le Anjou et puis côté Vendômois. Elle a envoyé quelqu'un quand même faire des photos, venir sur place, etc. Son généalogiste qui lui a envoyé des photos. Et elle a un petit coup de cœur pour le château qu'elle a trouvé très beau. Un coup de cœur pour l'église. Alors, il n'y a pas eu que... Elle a eu aussi pour l'église de Lavenay et pour l'église de Sougy, dans le Loir-et-Cher. Et donc, elle a décidé... Elle était professeure à la Sorbonne, donc passionnée d'histoire. Et elle a décidé de léguer une partie de ses biens à, effectivement, pour la restauration et la rénovation de ses édifices. Alors, il y en a eu un petit morceau pour le pigeonnier du château, et un morceau pour l'église de Sougé, qui a d'ailleurs des peintures assez similaires, des peintures murales assez similaires, notamment avec l'église de Lavenay. Il y avait un petit legs pour l'église de Lavenay. On est dans une phase de restauration de l'église de Lavenay. Et puis, il y avait un joli morceau, quand même, il faut le dire, pour l'église de Poncé. ce qui nous a permis de se dire, bon, ben, on entame études diagnostiques, etc., et restauration. Et
on a le nom de cette dame ou elle a voulu rester anonyme ?
Non, elle s'appelle Madame Niveau. Elle n'est pas restée anonyme. Hein. Il a fallu... Bon, c'était un peu compliqué pour récupérer le legs.
Donc, si des gens veulent léguer leur patrimoine, vous dites que c'est compliqué de récupérer ?
Nous, ça a été compliqué... Enfin, c'est pas compliqué de récupérer, mais c'est toujours un peu... bataille. D'un seul coup, quand il y a un legs, tout le monde est intéressé.
Certes.
Donc, à un moment donné, il faut montrer que simplement, on va être capable de le gérer et de le faire, de faire les travaux et que on n'a peut-être pas besoin de 15 000 intermédiaires.
Il y avait des ayants droit qui non, ont eu leur non. droit de regard ou pas du tout ?
Pas du tout. Là-dessus, on n'a pas eu de souci.
On peut connaître le montant ou c'est confidentiel ?
Non, c'est pas confidentiel, on était sur 500 000 euros.
Ah oui, quand même. Donc 500 000 euros sur l'ensemble des legs qui ont été répartis sur les différents sites que vous évoquiez ou ici pour la...
J'ai 500 000 euros pour l'église de Poncé.
Donc ça, c'est une manne incroyable.
On a fait plus de 1 million 2 de travaux.
Disons que sans ce legs, vous n'auriez pas pu mener toute la rénovation qui a été faite.
Non, sans ce legs, on n'aurait pas tout mené, sûrement pas. Et je ne sais même pas si on aurait entamé. Ce qui est sûr, c'est que l'église allait très mal. En termes de bâti, on a fait énormément à changer des pierres. Hein, des pierres qui ont été retirées, qui étaient abîmées, qui étaient complètement desquamées. Elles pelaient, enfin bref. Le nombre de pierres qu'on a changées, mais c'est assez phénoménal.
Donc en fait, ce legs, c'était l'élément déclencheur de la décision de faire cette rénovation. Ouais. Ça date de quand ?
Alors, c'était avant la commune nouvelle. Quand on est passé en commune nouvelle, on était à la phase diagnostique. Donc, ça a été démarré avant.
Donc, ça date des années 2016, 2018, par là ?
2015-2016, par là, oui.
Donc là, vous avez décidé de déclencher un projet ?
Oui, exactement.
Donc là, branle-bas de combat, donc on a le legs. Bon, 500 000 euros, ça permet de causer déjà. Et d'aller voir quoi, la Fondation du patrimoine, la région ?
Non, alors, surtout d'aller voir la DRAC, premièrement, parce que d'abord, c'est une église qui est classée. Non, pas inscrite, mais classée. Donc, d'abord, on ne fait rien sans la DRAC, sans l'autorisation et l'accord, etc.
Donc, la DRAC, on peut dire, ça dépend du ministère de la Culture et c'est au niveau régional.
C'est au niveau régional. C'est par eux qu'on passe, c'est nos interlocuteurs. Donc, c'est avec eux qu'on a d'abord commandité un maître d'œuvre, enfin, un architecte du patrimoine pour le diagnostic. Parce que, étant donné que l'église est classée, on est obligé de passer par un architecte du patrimoine. Donc, qui a fait le diagnostic de l'église. On a fait un diagnostic particulier sur les décors peints. Ça a été demandé par l'architecte, puis je pense que ça aurait été aussi demandé par la DRAC, pour qu'il y ait vraiment un spécialiste qui fasse l'étude. Et puis après, l'architecte du patrimoine a poursuivi en tant que maître d'œuvre.
Donc le projet initial, il était plus orienté sur les fresques et les peintures, ou vous disiez que l'état global de l'église était difficile ?
Le projet initial était sur le bâti, pour la mettre hors d'eau, hors d'air. On avait la nef avec une bâche sur le toit,
pas très esthétique.
Bleu. Puis les murs, enfin, il y a des piliers qui étaient... Il y a eu des... Comme dans toute restauration, il y a eu des bricolages de fait, y compris sur les peintures murales, d'ailleurs. Alors, on ne peut pas en vouloir aux gens. Quand je dis bricolage, ce n'est pas une critique vis-à-vis de ceux qui l'ont fait.
On faisait avec les moyens du bord.
On faisait avec ce qu'on avait, avec ce qu'on pouvait, et puis avec ce qu'on pensait bien. Mais quand on remet du ciment sur du tuffeau, ce n'est pas top. Voilà.
Donc quand on veut faire une rénovation respectueuse du site, ça c'est encore plus de complexité.
Exactement, et puis ça nécessite d'enlever aussi des choses qui n'auraient jamais dû être là, de remettre des enduits correctement, d'enlever du ciment. On a toutes ces choses-là. Sur les peintures murales, c'est dans le fond là, sur l'autel de gauche, on a retrouvé un bulletin municipal des années, je pense que c'était des années 60 à l'époque, je suis pas trop sûre, mais je crois que c'était de cette époque-là, où des bénévoles, habitants de Poncé, et puis étant aussi au conseil municipal, etc., avaient demandé au bâtiment de France, a priori à la BF, d'après ce qu'on a compris, ce qu'il fallait faire. Comme ils n'avaient pas de réponse, eh ben, allons-y un peu de lessive Saint-Marc sur les peintures, quoi.
Et Saint-Marc, ça ne marche pas pour autant.
Ça ne marche pas tout à fait, mais c'est Saint-Julien ici. Et il y avait des traînées, des coulées. Enfin,
donc, détérioration des peintures.
Oui, la personne qui a mené le chantier, la Véronique Legout, qui a mené le chantier de rénovation, était catastrophée de voir ça.
Donc attention au chantier participatif, ça doit être encadré.
Oui, exactement, c'est ça. Voilà, tout à fait.
Donc entre le début, donc ce legs, se rapprocher de la DRAC... Combien de temps de diagnostic, d'analyse avant de lancer les travaux ?
Alors, avant de lancer les travaux, on a bien passé un an et demi. Parce qu'on lance des travaux, puis d'un seul coup, on vous dit « Ah, mais vous n'avez pas fait les études archéologiques pour vérifier qu'il n'y a rien au pied. » Et hop, parce qu'il faut attendre que l'archéo vienne. Mais il faut qu'il soit dispo, il faut que machin. Donc, en soi, et hop, on se prend 4 mois dans la vie.
Donc, vous avez eu des études archéologiques aussi qui ont été faites ?
Qui ont abouti au fait qu'on avait le droit de...
Il n'y avait pas de...
Non, il n'y avait rien d'extraordinaire.
Pas de cimetière mérovingien.
Non, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Le sol de l'église, là, dans les allées, celui-là était d'origine, parce que là, c'était de briques et de broc par terre. Mmh. C'était des carreaux de toutes sortes, de toute époque. Je pense que quand il en manquait, chacun a été avec ce qu'il avait dans sa réserve pour en remettre. À peu près, enfin, ça donnait un peu cette impression-là. Et les endroits où il y avait du ciment, un peu de béton, là.
Donc là, c'était refait avec des tomettes.
Ça a été refait avec des tomettes. On a fait venir je ne sais combien d'échantillons avant de trouver un truc qui convenait à tout le monde. Mais c'était pareil pour les pierres. C'est la même chose pour les pierres. Ici, on est avec un tuffeau très particulier qui a des veines très jaunes qui sont liées à des carrières des environs. On a une eau ici qui est extrêmement ferrugineuse. Et en fait, les traînées jaunes, c'est de la rouille. Mais du coup, ça donne une pierre très particulière, de moins bonne qualité que le tuffeau angevin. Mais maintenant, pour retrouver une pierre ou une carrière dans laquelle il y aurait éventuellement ces veines traces de rouille.
J'imagine on n'a aucune idée d'où ont été extraites à l'époque les pierres.
Non, on pense que c'était sûrement pas loin, parce que bon, on n'imagine pas du transport. Mais à part ça, on n'a pas de renseignements dessus. Mais par contre, et pour retrouver, et il y a des endroits, on le voit, les pierres du bas ont été remises, et elles sont beaucoup plus blanches. Alors, il n'y a plus de carrière en ce moment, c'est ce que nous a dit, c'est la maison Lefebvre qui a refait la restauration avec les pierres. Il n'y a plus actuellement de carrière avec des veines ouvertes, enfin, qui seraient avec des veines comme ça, particulières. On a fait au plus approchant, mais je crois qu'on a fait venir, je vois encore Madame Rama, l'architecte là, du patrimoine qui nous a suivis, elle a retoqué je ne sais combien d'échantillons, et elle en a fait venir d'autres carrières, etc. Jusqu'à ce qu'on trouve le ton qui puisse coller.
Au total, c'est quelle durée de travaux pour toutes ces rénovations ?
Un an.
Un an de travaux.
Un an, un peu plus d'un an. Mais on a fermé l'église un an. On l'a fermée au mois de décembre et on l'a rouverte pour la messe de minuit de l'année suivante.
Qui était donc l'année
2021. Alors après, c'était pas pile poil fini. Il y a eu encore des aménagements, mais globalement, on pouvait célébrer des messes, etc.
Donc une partie sur la structure, sur le bâti, oui. Et une autre partie sur les fresques.
Sur les peintures murales. Alors les peintures murales, en fait, il y a deux parties. Toute la nef, toute la partie centrale, qui est vraiment les peintures authentiques. Et tout ce qui est dans l'abside, c'est vraiment a été repeint au 19e. Alors, le fait qu'on ait restauré ces peintures, on n'y a pas touché. On a comblé, parce qu'il faut quand même l'imaginer, les peintures étaient piquetées forcément par le temps, par tas de choses. Et en fait, imaginez un échafaudage qui fait toute la longueur de la nef, des personnes qui sont au-dessus, à hauteur des peintures, qui sont avec une toute petite éponge qui fait vraiment 10 cm sur 10 cm.
Et pas une spandex, hein.
Non. Ça, c'est pour les cibles Saint-Marc. Et qui sont avec toute petite éponge et qui sont là à faire point par point retrouver la bonne teinte pour combler le petit trou et redonner de la lisibilité au dessin.
Mais ça prend un temps dingue. Il y a eu jusqu'à combien de personnes à travailler ?
Ils ont été jusqu'à une dizaine, à mon avis, un grand max. On a eu un petit moment de bonheur au mois de. C'était en mois de février-mars. Il y a des prêtres du Mans qui faisaient une réunion ensemble, enfin voilà. Ils étaient chez les Sœurs de la Providence.
Ils étaient en séminaire.
C'était en séminaire, c'est cela. Ils étaient chez les Sœurs de la Providence et ils ont dit, écoutez, nous, on ferait bien, au milieu de notre séminaire, une marche et on viendrait bien voir l'église de Poncé. Alors, j'ai dit, écoutez, c'est en rénovation, il y a encore des échafaudages, il y a tout ça, mais écoutez, oui, on peut vous l'ouvrir, puis on vous explique un peu ce qu'on est en train de faire, ce qu'on rénove, etc. Ils sont arrivés, alors on a fait un petit tour, on a expliqué les peintures, etc. Puis ils ont dit, écoutez, maintenant, il devait être 18h, un truc comme ça, on va chanter les vêpres. Et alors là, on a eu un petit moment magique, on était 3 élus. Les bancs étaient remplis de prêtres, et il y avait l'échafaudage, les personnes qui étaient avec leur petite éponge en train, et les petits pinceaux en train de remettre tout, et les vêpres.
Un moment exceptionnel.
Dire, c'était un moment magique.
Ouais,
exceptionnel. Ouais. Ah ouais, c'était... Waouh, je me disais, mais quelle chance on a de vivre ça. C'était vraiment... Ah oui, je trouvais que c'était un petit cadeau. C'était vraiment très beau.
Ça faisait partie du parcours de rénovation. Ouais. Donc, vous disiez que autant le bâti n'a rien subi de transformation au cours des siècles. Néanmoins, ces peintures, ces fresques, elles, sont de plusieurs périodes.
Oui, tout ce qui est donc dans la partie centrale, On est sur du 13e, globalement.
Ça représente quoi?
Alors voilà, c'est extraordinaire, c'est ce que nous a expliqué. Alors je vous relate tout ce que nous a expliqué la personne qui restaurait, enfin qui avait le cabinet de restauration des peintures murales. Elle nous a expliqué qu'autrefois, comme personne, les gens ne savaient pas lire, en fait, les fresques avaient un rôle, c'était d'expliquer l'Évangile, d'expliquer la Bible.
C'était la catéchèse illustrée.
Et alors, c'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que, alors, il y a des scènes qui expliquent en fait que la catéchèse. Mais par exemple, on a la bataille avec les Sarrasins, qui est là-bas, qui est assez extraordinaire. On voit un Sarrasin qui est couché, l'épée qui est dessus, le sang qui gicle. Enfin, c'est fantastique. On a beaucoup de choses avec le diable. Et elle nous expliquait que le diable, c'est dehors, en fait. C'est la vie des mécréants. Donc, en fait, plus on avance et plus les scènes sont bibliques et voilà.
Et saintes.
Oui, et saintes. Et en fait, plus on sort. Et là, finalement, plus on sort, plus on est sur le côté, on va vers le monde des mécréants. Donc, ça raconte tout ce qui... Ça, c'est un diable, il est assez extraordinaire, avec une couronne complètement... Et ça raconte... Alors, celle-là est beaucoup plus ancienne. Là, on a le passage des morts. Et on est sur quelque chose de plus... ben voilà, on va vers le monde des mécréants.
Et quand on va vers l'abside, on est sur des choses qui sont plus récentes,
alors,
vous disiez?
Qui sont plus récentes, qui sont du 19e, qui ont été repeintes. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, avant, il y avait, je trouve, alors c'est vraiment un avis personnel, on voyait bien ces peintures du 12e, 13e, et quelque part, je ne vais pas dire qu'elles juraient, mais elles faisaient vraiment quelque chose de très criant par rapport à ces peintures qui étaient un peu effacées. Et le fait d'avoir restauré les peintures du 12e, du 13e, eh bien, je trouve que la transition avec tout ce qui a été repeint au 19e est beaucoup plus doux et passe beaucoup mieux. C'est très riche de décors, hein, évidemment, 19e, et puis voilà, ça raconte l'histoire sainte.
Globalement, c'est quand même, vous le disiez, Galien, très 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 coloré. C'est assez inattendu hein, par chez nous. Je dirais que c'est un petit côté un peu byzantin, c'est très exubérant, toutes ces peintures.
C'est le côté 19e qui fait ça, parce que 19e, si on prend... Je vous invite, il y a une autre église qui est assez... qu'il faudra qu'on restaure parce qu'elle a vraiment des soucis de bâti aussi. C'est l'église de la chapelle Gauguin. Aller à l'intérieur, c'est un décor, mais 19e complet. On retrouve un peu ça, alors, avec de l'or en plus, en pagaille, et un côté très byzantin, très 19e.
Pour le pays d'art et d'histoire, c'est quand même exceptionnel d'avoir ça sur notre territoire. Et vous avez noté un intérêt des visiteurs, des touristes, de venir voir cette église depuis sa rénovation?
Alors depuis sa rénovation, j'avoue que je suis pas là au quotidien, je sais pas, mais forcément que oui. Après, il y a toujours eu un intérêt hein, de la part des touristes. Il y a quand même un attrait pour les peintures murales, on sent bien, les gens sont toujours contents. Alors il y a une autre église qui est à peu près avec des peintures de la même époque, qui est assez connue en France. Oui, sans doute en France, mais en Sarthe, en tout cas à Asnières-sur-Vègre. On connaît peut-être plus encore, mais c'est un petit peu l'équivalent, on va dire, au niveau des peintures. Alors, sachant que quand même, toutes les églises étaient peintes au Moyen-Âge. Donc, nous, ça nous paraît exubérant. Après, on dit que c'est le 19e, et le 19e n'a fait que réinterpréter ce qui se faisait au Moyen-Âge. Donc, en fait, l'exubérance, elle était là avant. C'est nous qui avons... Enfin, c'est quelque chose qui s'est déconstruit au fil du temps. On a eu des églises très sobres, enfin on a intégré nous plutôt ces codes-là, alors qu'à l'origine, on est plus proche justement des églises byzantines, enfin plus c'est luxueux, mieux c'est en fait.
C'est vrai qu'on le sait pas forcément, mais avec la rénovation aussi de Notre-Dame de Paris, on a découvert que tout était peint jusqu'aux façades à une certaine époque.
Ah oui, la couleur était extrêmement présente partout. C'est presque criard pour nous, alors que c'était la norme. Et on est assez fascinés de voir, parce que on parle de couleurs dans les maisons en pan de bois, par exemple dans les villes. Il y a certaines villes qui rénovent leur pan de bois en mettant de la couleur, parce que même le pan de bois était coloré, bleu, vert. Enfin, donc cette couleur, elle est assez normale. Et dans toutes les églises, on retrouve, enfin presque souvent, disons, dans les vieilles églises, on va retrouver, en faisant de la restauration, des traces de peinture. Bien souvent, elles sont trop effacées pour qu'elles aient un intérêt. Dans d'autres églises, on sait qu'elles sont là, on les découvre pas parce qu'on n'a pas les moyens de les maintenir, les restaurer. Et ici, on a cette chance d'avoir, mais alors, une église... Alors même quand elle n'était plus, au fait, au 19e, là, c'est ça, c'est le paradoxe, on a repeint tout le reste, en fait. Et donc on a vraiment de la couleur. Elles ne sont pas aussi vives qu'à l'origine en plus.
Oui, hein, on imagine bien que les couleurs devaient être encore plus criardes. Enfin, pas criardes, le terme est négatif, mais là on est sur des tons pastels. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas, je vous invite à venir visiter parce que c'est étonnant. On a des peintures absolument partout, sur toutes les faces des colonnes. C'est vraiment superbe. Et puis finalement, par rapport à d'autres constructions, on a assez peu d'ouvertures, assez peu de vitraux, de manière à pouvoir en fait se concentrer, se focaliser sur ces peintures. Les vitraux ont été restaurés aussi ou ils sont d'origine ?
Dans le cadre de la rénovation, là, ils ont été nettoyés. Il y en a quelques-uns qui sont partis en atelier de vitrail, pas tous, mais une partie qui est repartie pour se faire restaurer parce qu'il manquait un morceau, parce que voilà, enfin, ils étaient abîmés. Ils ont été descendus, une partie qui a été descendue notamment. Là où il n'y en a plus, par exemple, comme là, voilà, on n'a pas remis des vitraux.
Sur la partie basse, puisqu'ils ont disparu, il y a longtemps.
Voilà, exactement. Et là, on n'a pas remis des vitraux. On a descendu ceux qui existaient, on les a nettoyés. Ça leur a redonné, d'ailleurs, de l'éclat. Les plus étonnants, c'est ces petits vitraux qui sont là-haut. Alors, on pense qu'à l'origine, il devait y avoir une galerie avec une possibilité. Et puis, il y a eu sans doute un morceau d'extension, parce que sinon, il ne donne sur rien, ce qui est juste...
Il donne sur des combles qui n'existaient pas à l'époque.
Voilà, exactement.
Donc, le budget global de rénovation, finalement, tous ces travaux, ça a coûté combien ?
Bon, on est sur 1,4 million au global.
Une très belle somme. Alors le rendu est exceptionnel. Donc 1,4 million. Donc on a un leg de 500 000. On a été aidé par l'État, par la région.
On a été aidé par la DRAC et par, enfin donc l'État, par le ministère de la Culture, puisque c'est une église classée. Et puis par la région et le département. Et puis après, la commune aussi.
La commune aussi, c'est ce que j'allais vous dire. Évidemment, 1,4 million pour une commune comme Loire-en-Vallée, c'est inenvisageable. Voilà. Sans ces aides, et notamment ce legs. Le reste à charge pour la commune
Le reste à charge, bon, nous, on l'a fondu avec le... On a considéré que le legs faisait partie du reste à charge.
Hein. Oui, c'est pas une mauvaise idée.
C'est pas une mauvaise idée non plus. On doit être à peu près sur le montant du legs. Hein. Enfin, voilà, faut pas...
Ah oui, d'accord. Donc en fait, si on retire le legs, il n'y a rien.
Pas grand-chose. Non, ça a été une belle opération. Et je dois reconnaître que là-dessus, l'ensemble des acteurs de la culture, en fait, qui suivent dans le domaine de la culture, que ce soit l'État, la région ou le département, ont suivi. Alors après, tout le monde ne prend pas tout au milieu de travaux. Par exemple, on a refait l'électricité.
C'est d'autres financements.
Voilà, c'est d'autres financements parce que ça s'éparpille, mais c'était dommage de ne pas refaire l'électricité au passage. Et puis, on a eu aussi... il fallait qu'on fasse la sonorisation. Et là, il y a une association, les Amis de l'Église. C'est eux qui ont pris ça en charge.
Cette église reprend vie. Alors, c'est pas qu'elle avait plus de vie, mais à partir du moment où elle était dégradée, et notamment le bâti, j'imagine que c'était compliqué. Donc, elle est classée. D'ailleurs, elle est classée depuis quand ? Depuis très longtemps ?
Ah oui, depuis... c'est le bâtiment classé depuis plus longtemps pour Loire-en-Vallée.
Bon, il y a des messes, il y a des mariages, des baptêmes.
Il y a d'abord, oui, bien sûr, des offices, puisque d'abord, c'est une église qui est consacrée. Et puis, il y a aussi des concerts. Sur Pensée, il y a une association qui s'appelle AD3P, qui est une association de patrimoine. Ils organisent assez souvent des concerts et puis il y en a aussi d'organiser à l'occasion quand nous on a des possibilités de concerts. On en organise aussi. La D3P en organise un le 12 avril avec un concert irlandais. Il dit, on a eu un concert gospel au mois de... C'était à la fin de l'année.
Tous les ans, il y a une programmation.
Il y a une programmation, c'est peut-être un grand mot, mais tous les ans, on essaye de toujours faire un moment.
Donc les gens veulent se renseigner auprès de la mairie de Loire-en-Vallée ?
Oui, auprès de la mairie de Loire-en-Vallée, généralement, on relaye. L'office de tourisme aussi relaye pas mal quand on organise des concerts. Il y a une belle sonorité. La Clé au chant qui est venue, qui est une association là d'une chorale sur la vallée du Loir, est venue et aime bien revenir pour la qualité de la sonorité.
C'est un secret bien gardé, cette église, donc qui fait écho aux démarches du pays. Vous pouvez nous en dire plus parce que ça fait partie du circuit que vous avez organisé sur le pays d'art et d'histoire.
Oui, alors on a à la fois un dépliant qui a été créé, qui est normalement à disposition dans l'église. Je dis normalement parce que je vois qu'il n'y en a plus.
Oui, mais il y a un QR code.
Donc un petit livret de visite, hein, classique, on va dire. Et puis on a aussi l'expérience à la poursuite du temps caché qui est présente dans cette église. À savoir que effectivement, on a un QR code qui est dans l'église. Ça coûte rien, hein. On flash son QR code. C'est une expérience, je dirais, familiale, parce que c'est adapté aux enfants, parce qu'il y a une histoire de chasse. Ici, on peut trouver un petit loir qu'on ne trouvera pas ailleurs, hein, qui s'appelle Fresco, d'ailleurs. En tout cas, on peut trouver ce petit loir qui est à collectionner. Et surtout, on peut voir des vidéos, parce que nos découvertes se font sous forme de vidéos pour que ce soit assez ludique et assez simple. Une vidéo qui, on voit quelqu'un qui fait une peinture murale. Donc on comprend la technique qui est très quand même caractéristique et spécifique pour faire cette peinture. Et puis on voit aussi deux scènes s'animer, en fait, deux personnages des murs qui s'animent et qui racontent leur histoire. Donc en fait, c'est une lecture des murs qu'on voit. Évidemment, c'est pas toutes les scènes qui s'animent, mais ça permet de comprendre en fait l'iconographie et la richesse de l'église. Et l'idée, c'est d'attirer tous les âges à découvrir le patrimoine.
On peut peut-être expliquer rapidement qu'à la poursuite du temps caché, donc c'est une initiative du pays Vallée du Loir, qui est une espèce d'animation de grande chasse au trésor sur le territoire, qui se focalise sur un certain nombre de sites pour effectivement, comme vous le dites, mettre en lumière des points particuliers.
Oui, c'est ça. Ça fait quelques années maintenant qu'on a lancé cette expérience. L'idée, c'est de découvrir le territoire sur toute son échelle et en fait sous toutes ses formes. Donc on a des patrimoines très différents. On a essayé de varier au maximum les patrimoines. Donc depuis l'année dernière, depuis la restauration, l'église de Poncé fait partie du circuit, mais vous êtes allé à la jumenterie, c'était, je dirais, notre dernier circuit mis en place l'été dernier. On essaye aussi de voir les bâtiments qui sont rénovés, restaurés, hein, forcément. Donc des bâtiments très différents. Et à chaque endroit, il y a un petit loir, un coffre à trouver. Hein, c'est grâce à l'appli qu'on trouve. Et les gens, alors je dis les enfants, mais les grands aussi, hein, il n'y a pas d'âge limite.
Pour tout public,
peuvent collectionner les petits loirs. Et s'ils en ont collectionné assez, en plus, ils ont le droit d'avoir des cadeaux supplémentaires à l'Office du Tourisme. Donc l'idée, c'est vraiment de créer cette dynamique, d'amener des familles à découvrir le patrimoine, tous les âges, sur les sites. En général, quand on peut, on a toujours un dépliant en parallèle, plus classique, on va dire, de visite, pour que les moins connectés s'y retrouvent encore et trouvent des explications sur ces lieux.
Parfait, eh bien, merci beaucoup. Donc, on était aujourd'hui à Poncé-sur-le-Loir, à l'église Saint-Julien, un joyau de notre territoire. Ben, je vous invite tous à venir flâner, visiter. Il y a beaucoup de choses à faire à Loire-en-Vallée, à Ruyé, à Poncé.
Tout à fait. Il y a un parcours de visite qui est tout à fait étonnant. On peut surponcer tout court. Il y a de quoi entre le château, les souffleurs de verre, les moulins paillards. Voilà, il y a vraiment de quoi déambuler en tous les cas. Mais après, au-delà, si on est intéressé sur les églises, ben, j'invite l'église de Ruyé qui est tout aussi intéressante, celle de Lavenec que l'on va restaurer et qui a des peintures murales avec des dessins du XVIe. Mais j'espère que vous reviendrez une autre fois pour en parler. Et la chapelle Gauguin qui est avec son décor 19e, mais complet, qui est aussi assez étonnante. Et je voudrais ajouter à Ruyé, bien sûr, ce magnifique ensemble que est le couvent des Sœurs de la Providence, la communauté des Sœurs de la Providence, qui est un endroit serein, paisible et extraordinaire à connaître, en tous les cas, et à découvrir.
Donc serein et paisible, c'est tout ce qui symbolise Loire-en-Vallée. Et vous aurez l'occasion, si vous flânez dans le coin, peut-être de tomber sur Gallienne, qui fait partie, elle aussi, du patrimoine de Loire-en-Vallée. Merci à toutes les deux. Merci Gallienne, merci Mathilde. Et on se retrouve le mois prochain sur un autre site de notre territoire. Merci.
Histoire de patrimoine de nos communes.